bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour. Et ce, tranquillement et confortablement installé chez vous en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Donc bonjour à tous les deux. Et
ou Dominique.
Et bonjour à tous.
Bonjour.
Puisque, bonjour. Une fois n'est pas coutume, nous sommes en public. Ça ne nous arrive pas souvent. Ça nous est arrivé au grenier de Vineuil, juste la veille du confinement, je me souviens, en mars 2020. On avait quand même un spectateur. On a renouvelé l'expérience au grenier de Vineuil le mois dernier. Et donc là, pour notre nouvelle émission, mais il y a un monde fou, on n'a jamais vu autant de monde. Bonjour à tous. Alors, Catherine ou Hervé, je ne sais pas qui va me répondre. Quel est le roman que vous allez présenter aujourd'hui ?
Eh bien, je vais répondre si tu le veux bien, Catherine. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas ni Catherine ni moi qui avons choisi les livres, mais puisqu'on est en public et que nous sommes dans une bibliothèque où il y a des comités de lecture, c'est l'un des comités de lecture qui a choisi des coups de cœur que nous allons lire aujourd'hui. Et je précise que l'une des représentantes d'un comité de lecture est présente avec nous.
Alors ça mérite quelques explications. Je me tourne tout de suite vers les deux personnes de la bibliothèque qui sont installées avec nous. Je commence par Lucie.
Bonjour.
Bonjour Lucie. Donc Lucie, vous êtes l'une des bibliothécaires de cette bibliothèque, c'est bien ça ?
Tout à fait. Nous sommes une équipe de 5 agents de mairie et bien aidés par une bonne dizaine de bénévoles qui nous accompagnent et nous aident et nous soutiennent au quotidien dans toutes nos missions de bibliothécaires. Voilà.
Très bien. Et de l'autre côté, nous avons Corinne. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Alors Corinne, j'ai cru comprendre que vous n'êtes pas employée de la bibliothèque, mais non. Responsable d'un des deux comités de lecture, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Le comité de Délivrez-nous, qui se réunit tous les deuxièmes mercredis de chaque mois.
Donc on va préciser Délivre et nous.
Et nous.
Délivrez-nous, il y a un petit jeu de mots.
Voilà, ah. Tout à fait. Grâce à Hervé.
Délivrez-nous.
Grâce à Hervé. nous sommes une douzaine de personnes. Nos rencontres s'organisent par la découverte d'un auteur autour d'un thème, comme les biographies ou les essais, mais également par la proposition de coups de cœur. Cela nous arrive également en fin de réunion d'échanger sur le théâtre, les films à l'affiche. Et en mars, le Robles prend le relais. Mais on garde toujours nos coups de cœur.
Très bien. Et donc, vous avez choisi pour cette émission 3 coups de cœur, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Et je vous propose de nous présenter tout de suite le premier.
Donc le premier, Michel Bussy, Les Nymphéas Noirs, éditeur presse de la Cité, année de parution 2011. Donc dès les premières pages, on est plongé dans l'intrigue. Un meurtre est commis dans le merveilleux village de Giverny. Donc du haut de son moulin, une vieille femme surveille le quotidien du village, l'écart de tourisme. Il y a deux femmes qui vont se trouver au cœur de cette intrigue, une jeune fille de 11 ans et la maîtresse d'école du village. Dans ce village de Monet, où chacun s'observe, des drames vont venir perturber le quotidien des villageois. L'enquêteur et son adjoint vont essayer de démêler cette intrigue, mais bon, l'enquête s'enlise. Et donc, on ne peut pas trop révéler grand-chose de ce roman.
Il ne faut pas révéler la fin, puisqu'il y a une construction très particulière.
Voilà, parce que arrivé à la fin, c'est une fin surprenante.
À laquelle on ne s'attend pas.
On ne s'attend pas. Donc c'est surtout le meilleur roman de l'auteur. Enfin, pour le comité, quoi, en fait. Voilà.
Bon, parce que Michel Bussy a écrit autre chose.
Plein d'autres choses, mais voilà, celui-ci
qui
reste toujours celui qui ressort à chaque fois. Quand on parle de Michel Bussy, c'est toujours ce roman-ci qui ressort.
Qui ressort, oui. Je peux dire, j'ai lu moi-même le bouquin, on peut le dire aux auditeurs.
Oui.
Lisez-le, il est génial.
Voilà.
Vous allez nous en lire un extrait. Eh bien, place à la lecture.
Trois femmes vivaient dans un village. La première était méchante, la deuxième était menteuse, la troisième était égoïste. Leur village portait un joli nom de jardin, Giverny. La première habitait dans un grand moulin au bord d'un ruisseau sur le chemin du roi. La deuxième occupait un appartement mansardé au-dessus de l'école, rue Blanche aux Chedets Monet. La troisième vivait chez sa mère, une petite maison dont la peinture au mur se décollait, rue du Château d'Eau. Elle n'avait pas non plus le même âge, pas du tout. La première avait plus de 80 ans et était veuve, ou presque. La deuxième avait 36 ans et n'avait jamais trompé son mari, pour l'instant. La troisième avait 11 ans, bientôt, et tous les garçons de son école voulaient d'elle pour amoureuse. La première s'habillait toujours de noir, la deuxième se maquillait pour son amant. La troisième tressait ses cheveux pour qu'ils volent au vent. Vous avez compris, toutes les trois étaient assez différentes. Elles possédaient pourtant un point commun, un secret en quelque sorte. Toutes les trois rêvaient de partir. Oui, de quitter Giverny, ce si fameux village dont le seul nom donne envie à une foule de gens de traverser le monde entier juste pour s'y promener quelques heures. Vous savez bien pourquoi, à cause des peintres impressionnistes. La première, la plus vieille, possédait un joli tableau. La deuxième s'intéressait beaucoup aux artistes. La troisième, la plus jeune, savait bien peindre. Très bien même. C'est étrange, vouloir quitter Giverny, vous trouvez pas? Toutes les trois pensaient que le village était une prison. Un grand et beau jardin, mais grillagé. Comme le parc d'un asile. Un trompe-l'œil. Un tableau dont il serait impossible de déborder du cadre. En réalité, la troisième, la plus jeune, cherchait un père, ailleurs. La deuxième cherchait l'amour. La première, la plus vieille, savait des choses sur les deux autres. Une fois pourtant, pendant 13 jours, pendant 13 jours seulement, les grilles du parc s'ouvrirent, très précisément du 13 mai au 25 mai 2010. Les grilles de Giverny se levèrent pour elle seule, c'est ce qu'elle pensait. Mais la règle était cruelle, une seule d'entre elles pouvait s'échapper. Les deux autres devaient mourir, c'est ainsi. Ces 13 jours défilèrent comme une parenthèse dans leur vie, trop brève, cruelle aussi. Cette parenthèse s'ouvrit par un meurtre, le premier jour, et se termina par un autre, le dernier jour. Bizarrement, les policiers ne s'intéressent qu'à la deuxième femme, la plus belle. La troisième, la plus innocente, dut enquêter toute seule. La première, la plus discrète, put tranquillement surveiller tout le monde et même tuer. Cela dura 13 jours, le temps d'une évasion. 3 femmes vivaient dans un village. La troisième était la plus douée, la deuxième était la plus rusée, la première était la plus déterminée. À votre avis, laquelle parvint à s'échapper? La troisième, la plus jeune, s'appelait Fanette Morel. La deuxième s'appelait Stéphanie Dupin. La première, la plus vieille, c'était moi. L'eau claire de la rivière se colore de rose par petits filets comme l'éphémère teinte pastel d'un jet d'eau dans lequel on rince un pinceau. Non, Neptune ! Au fil du courant, la couleur se dilue, s'accroche au vert des herbes folles qui pendent des berges à l'ocre des racines des peupliers, des saules. Un subtil dégradé, délavé. J'aime assez. Sauf que le rouge ne vient pas d'une palette qu'un peintre aurait nettoyée dans la rivière, mais du crâne défoncé de Jérôme Morval. Salement défoncé, même. Le sang s'échappe d'une profonde entaille dans le haut de son crâne, net, bien propre, lavé par le rue de Lept, dans lequel sa tête est plongée. Mon berger allemand s'approche, renifle. Je crie à nouveau plus fermement cette fois. « Non, Neptune, recule !» Je me doute qu'ils ne vont pas tarder à trouver le cadavre, même s'il n'est que 6 heures du matin. Un promeneur va sans doute passer, ou bien un peintre, un type qui fait son jogging, un ramasseur d'escargots, un passant qui va tomber sur ce corps. Je prends garde à ne pas m'avancer davantage. Je m'appuie sur ma canne. La terre devant moi est boueuse. Il a beaucoup plu ces derniers jours. Les bordures rues sont meubles. À 84 ans, je n'ai plus vraiment l'âge de jouer les naïades, même dans un ruisseau de rien du tout. De boins d'un mètre de large, dont la moitié du débit est détournée pour alimenter le bassin des jardins de Monet. D'ailleurs, il paraît que ce n'est plus le cas, qu'il existe un forage souterrain pour alimenter l'étang aux nymphéas. Allez, Neptune, on continue. Je lève ma canne vers lui comme pour éviter qu'il ne colle sa truffe dans le trou béant de la veste grise de Jérôme Morval. La seconde plaie. Plein cœur. Bouge, on va pas traîner là. Je regarde une dernière fois le lavoir juste en face et je continue le long du chemin. Rien à dire, il est impeccablement entretenu. Les arbres les plus envahissants ont été sciés à la base, les talus sont désherbés. Il faut dire que quelques milliers de touristes le fréquentent chaque jour, ce chemin. On y passerait une poussette, un handicapé en fauteuil, une vieille avec une canne, moi. Allez, viens, Neptune. Je tourne un peu plus loin, à l'endroit où le ru de Lepte se scinde en deux bras fermés par un barrage et une cascade. De l'autre côté, on devine les jardins de Monet, les nymphéas, le pont japonais, les cerfs. C'est étrange. Je suis née ici en 1926, l'année de la mort de Claude Monet. Pendant des années après la disparition de Monet, presque 50 ans, ces jardins furent fermés, oubliés, abandonnés. Aujourd'hui, la roue a tourné et chaque année, plusieurs dizaines de milliers de Japonais, d'Américains, de Russes ou d'Australiens traversent la planète rien que pour flâner dans Giverny. Les jardins de Monet sont devenus un temple sacré, une Mecque, une cathédrale. D'ailleurs, ces milliers de pèlerins ne vont pas tarder à débarquer. Je consulte ma montre. 6h02. Encore quelques heures de répit. J'avance. Je me pose sur un banc, j'attends la suite, inéluctable. Il n'y a toujours aucun autocar sur le parking de la prairie lorsque la camionnette de police se gare en catastrophe au bord du chemin du Roi, entre le lavoir et Montmoulin, à 20 pas du corps noyé de Jérôme Morval. Je me lève. J'hésite à rappeler une dernière fois Neptune. Je soupire. Après tout, il connaît le chemin. Le moulin des Chènevières est juste à côté. Je jette un dernier regard vers les flics qui descendent du véhicule et je m'éloigne. Je rentre chez moi. De la tour du moulin au quatrième étage, derrière la fenêtre, on peut beaucoup mieux y observer tout ce qui se passe aux alentours. Et beaucoup plus discrètement. L'inspecteur Lorenz Serenac a commencé par délimiter un périmètre de quelques mètres autour du cadavre en fixant une large bande plastique orange aux branches des arbres au-dessus du ruisseau. La scène du crime laisse présager une enquête compliquée. Serenac se rassure en se disant qu'il a eu le bon réflexe et quand le téléphone du commissariat de Vernon a sonné, venir avec trois autres collègues dans l'immédiat, la principale mission du premier, l'agent Louvel, est de garder à distance les badauds qui commencent à s'entasser le long du ru. C'en est même incroyable. Le véhicule de police a traversé un village désert et en quelques minutes, on dirait que tous les habitants convergent en direction du lieu du meurtre. Car il s'agit bien d'un meurtre. Il n'y a pas besoin d'avoir suivi 3 ans d'école de police à Toulouse pour en être certain. Serenac observe à nouveau la plaie ouverte dans le cœur, le sommet du crâne ouvert et la tête plongée dans l'eau. L'agent Maury, à ce qu'il paraît le spécialiste scientifique le plus calé du commissariat de Vernon, est occupé à repérer avec précaution les traces de pas dans la terre, juste devant le cadavre, et à mouler des empreintes avec du plâtre à prise rapide. C'est Serenac qui lui a donné l'ordre d'immortaliser le sol boueux avant même de s'avancer pour examiner le cadavre. Le type est mort, il ne va pas se sauver, pas même ressusciter. Pas question de piétiner la scène de crime avant d'avoir tout en photo et en sachet.
Come on.
Bien, merci Catherine pour cette lecture des Nymphéas noires de Michel Bussy. Corinne, donc ces premières pages, elles sont particulièrement importantes.
Oui, elles sont très importantes. On comprend l'importance de ces pages lorsqu'on finit le livre. Parce qu'en fait, dès le dénouement de l'histoire, eh bien, on est obligé de revenir à la première page. Parce qu'en fait, tout est dit dans la première page. Et on aurait même envie de le relire une deuxième fois après pour voir où il a semé ces indices.
Où il a semé des indices.
Voilà.
Oui, je me souviens que lors de la lecture, effectivement, oui. On a ce réflexe de revenir vers les premières pages.
Oui.
Et Lucie, tu voulais ajouter quelque chose à propos de ce livre ?
Eh bien oui, pour les amateurs de bande dessinée, je voulais ajouter que ce roman a été adapté, et assez bien adapté, franchement, en 2019 par Fred Duval et Vincent Casgrain à l'illustration. Donc c'est vraiment très réussi, n'hésitez pas à aller voir, ça s'appelle Les Nymphéas noirs.
Voilà, et c'est disponible à la bibliothèque.
Et c'est disponible à la bibliothèque, oh, tout comme le roman
sûr.
D'ailleurs.
Bien sûr. Donc nous allons passer au second coup de cœur. Corinne, quel est le deuxième livre dont tu voulais nous parler ?
Donc Mal de pierre de Milena Agus, éditeur Liana Lévy, année de parution 2006. Donc là, la narratrice raconte la vie de ses grands-parents et surtout de sa grand-mère, qui est considérée comme une personne ayant un brin de folie. Donc c'est une jeune femme sarde, âgée de 30 ans, souffrant du mal de pierre. Donc ce sont des coliques néphrétiques. Donc elle se taillade les bras, elle est enfermée, elle s'enferme dans le poulailler. Enfin bon, elle est invivable cette femme, mais elle, ce qu'elle a envie, c'est de vivre et être aimée et aimée. Donc là, l'histoire se passe dans les années 40-45. Gabrielle, donc, est difficile à marier. Elle va finir par s'unir à Pierre, mais bon, cet homme, elle ne l'aime pas. À cause de sa maladie, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc vers les années 1950, les médecins lui prescrivent une cure sur le continent. C'est là qu'elle va rencontrer donc, le rescapé, André. Et une belle histoire d'amour va naître. Voilà, donc ce livre, c'est impossible de condenser tout ce qu'il contient en psychologie, sentiments. Il y a un beau portrait de l'Italie, Milan, la Sardaigne aussi. Donc, et les relations familiales, secrets de famille. Enfin, c'est un petit livre, hein, mais il y a plein de choses dedans.
Bien, eh bien, on va écouter quelques pages. C'est toi, Hervé, qui nous lit quelques pages de ce
livre. Eh oui.
Bien.
Elle s'était mariée sur le tard, en juin 1943, après les bombardements américains sur Cagliari, à une époque où une femme pas encore rasée à 30 ans était déjà presque déjà vieille. Non qu'elle fût laide ou qu'elle manquât de soupirants, au contraire, mais un moment venait où les prétendants espaçaient leur visite puis disparaissaient de la circulation. Toujours avant d'avoir demandé officiellement sa main à mon arrière-grand-père. Chère mademoiselle, des raisons de force majeure m'empêchent ce mercredi ainsi que le prochain de vous rendre visite, comme c'était mon vœu le plus cher, mais hélas irréalisable. Ma grand-mère attendait alors le troisième mercredi, mais chaque fois se présentait une excuse, une fillette qui lui apportait une lettre repoussant encore. Et puis plus rien. Mon arrière-grand-père et ses sœurs l'aimaient bien comme ça, un peu vieille fille, contrairement à mon arrière-grand-mère qui la traitait comme si elle n'était pas de son sang. Et disait-elle, elle avait ses raisons. Le dimanche, quand les autres filles allaient à la messe ou se promenaient sur la grande route au bras de leur fiancé, grand-mère relevait en chignon ses cheveux, toujours noirs et abondants, quand j'étais petite, et elle déjà vieille, alors imaginez dans sa jeunesse. Et elle se rendait à l'église demander à Dieu pourquoi. Pourquoi il poussait l'injustice jusqu'à lui refuser de connaître l'amour, qui est la chose la plus belle, la seule qui vaille la peine qu'on vive, une vie où on est debout à 4 heures pour s'occuper de la maison, puis on travaille au champ, puis on va à un cours de broderie suprêmement ennuyeux, puis on rapporte l'eau potable à la fontaine, la cruche sur la tête, sans compter qu'une nuit sur 10, il faut rester debout pour faire le pain et aussi tirer l'eau du puits et nourrir les poules. Alors, si Dieu ne voulait pas lui révéler l'amour, il n'avait qu'à la faire mourir d'une façon ou d'une autre. En confession, le prêtre disait que ses pensées constituaient un grave péché et que le monde offrait bien d'autres choses, mais pour grand-mère, elles étaient sans intérêt. Un jour, mon arrière-grand-mère attendit sa fille avec le tuyau pour arroser la cour et la frappa si fort qu'elle en eut des blessures jusqu'à la tête et une fièvre de cheval. Mon aïeul avait appris par des rumeurs qui couraient le village que si les prétendants de grand-mère se défilaient, c'est parce qu'elle leur écrivait des poèmes enflammés qui contenaient même des allusions cochonnes et que sa fille salissait non seulement son honneur, mais celui de toute la famille. Elle la frappait à tour de bras en vociférant « Démonia, démonia !» et elle maudissait le jour où il l'avait envoyée à l'école pour apprendre à lire. En mai 1943, donc, mon grand-père arriva au village. Il avait plus de 40 ans et travaillait comme employé aux salines de Cagliari. Il avait possédé une belle maison dans la rue Giuseppe Mano, juste à côté de l'église San Giorgio et Santa Caterina, une maison avec vue sur les toits jusqu'à la mer. Oui, j'ai bien prononcé, hein. De cette maison, de l'église et de bien d'autres choses, il ne restait rien après les bombardements du 13 mai. Sinon un trou et un amas de ruines. La famille de grand-mère reçut ce monsieur très comme il faut, qui n'était pas mobilisé car trop avancé en âge, veuve de fraîche date et réfugié avec pour seule richesse une valise empruntée et quelques bricoles retirées des décombres. Il arriva chez eux où il mangea et dormit gratuitement. Juin n'était pas passé qu'il demandait la main de grand-mère et l'épousait. Elle pleura presque tous les jours pendant le mois qui précéda le mariage. Elle se jetait aux pieds de mon arrière-grand-père, son père, et le suppliait de refuser, de prétexter qu'elle était déjà fiancée à un homme appelé sous les drapeaux. Sinon, s'il ne voulait vraiment plus d'elle sous leur toit, elle était prête à tout, elle partirait à Cagliari, elle chercherait un travail. Les gens de Cagliari viennent ici, ma fille, et toi, tu veux partir là-bas ? Mais il n'y a plus rien en ville. Elle est folle, complètement folle. Elle veut aller en ville, faire la putain. Elle ne peut faire que ça parce qu'elle ne sait rien faire d'autre. Et comme il se doit, elle n'a rien dans la tête depuis qu'elle est petite. Rien de plus facile que lui inventer un fiancé au front. Les Alpes, la Libye, l'Albanie, ou bien la mer Égée. Enrôlé dans la marine royale, ça aurait été bien facile, mais mes arrière-grands-parents ne voulurent rien savoir. Alors ce fut elle qui le lui dit, qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle ne pourrait jamais être une véritable épouse. Grand-père lui répondit de ne pas se mettre Martel en tête. Lui non plus ne l'aimait pas. Dans la mesure où l'un et l'autre savaient de quoi il parlait, quant à être une véritable épouse, il comprenait parfaitement. Il continuerait à fréquenter la maison close du quartier de la Marina, comme toujours depuis qu'il était jeune homme, et sans jamais rien attraper. Mais jusqu'en 1945, ils ne retournèrent pas à Cagliari. Et ainsi, mes grands-parents dormirent comme frères et sœurs dans la chambre d'amis. Un lit haut, en fer incrusté de nacre, à une place et demie, un tableau de la Madone à l'enfant, une pendule sous cloche en verre, un lavabo avec le broc et la bassine, un miroir orné d'une fleur peinte et un pot de chambre en porcelaine sous le lit. Grand-mère emporta ces objets rue Giuseppe Mano quand la maison du village fut vendue. Elle voulait une chambre identique à celle de la première année de mariage. Mais dans la maison du village, les chambres ne réservaient le jour et l'air que par la lolla, c'est-à-dire une galerie qui donnait accès à la maison. Tandis qu'ici, rue Manot, on est inondé jusqu'au crépuscule par la lumière du sud et de la mer, et tout en resplendit. Cette chambre, je l'ai toujours aimée. Et quand j'étais petite, grand-mère ne m'autorisait à y entrer que si j'avais été sage, et jamais plus d'une fois par jour. Pendant cette première année de mariage, grand-mère eut la malaria. La fièvre montait jusqu'à 41. Ce fut grand-père qui l'assista, restant assis des heures, veillant à ce que les compresses sur son front ne se réchauffent pas. Elle avait le front si bouillant qu'il fallait tremper les linges d'eau glacée. Il allait et venait, et on entendait grincer la poulie du puits jour et nuit. C'est à cette époque-là, le 8 septembre, qu'on vint précipitamment leur rapporter ce qu'annonçait la radio. L'Italie avait demandé l'armistice et la guerre était finie. En revanche, selon grand-père, elle était loin d'être finie et il ne restait qu'à espérer que le commandement en chef, Basso, laisse les Allemands quitter la Sardaigne sans héroïsme superflu. Basso devait être du même avis que grand-père, parce que les 30 000 hommes de la Panzer Division du général Lungerhausen se retirèrent tranquillement, sans massacrer personne, ce qui lui valut d'être arrêté et jugé. Mais en attendant, les Sardes étaient sains et saufs. Pas comme sur le continent. Grand-père et le général avaient raison, d'ailleurs. Il suffisait d'écouter Radio L'Ombre qui rapporta plusieurs fois les protestations de Bodoglio au sujet des soldats et des officiers italiens capturés par les Allemands sur le front italien et massacrés. Quand grand-mère fut guérie, on lui dit que si son mari n'avait pas été là, elle se serait consumée de fièvre et qu'il y avait eu l'armistice et le renversement d'alliance. Et elle, avec une méchanceté qu'elle ne se pardonna jamais, haussa les épaules comme pour dire « ça m'est bien égal ». La nuit, dans leur lit au perché, grand-mère se pelotonnait le plus loin possible de lui, au point que souvent elle tombait. Et quand, les nuits de lune, la lumière entrait par les volets de la porte qui donnait sur la lolla et éclairait le dos de son mari, elle avait presque peur de cet étranger installé sous leur toit, dont elle ne savait pas s'il était beau ou laid. De toute façon, elle ne le regardait pas et lui ne la regardait pas. Si grand-père dormait profondément, elle faisait pipi dans le pot de chambre rangé sous le lit. Sinon, il suffisait qu'il bouge imperceptiblement pour qu'elle mette son châle, sorte de la chambre et traverse la cour par n'importe quel temps pour aller au cabinet à côté du puits. Du reste, grand-père n'essaya jamais de l'approcher. Il se tenait lui aussi recroquevillé de l'autre côté, tout corpulent qu'il était. Il tomba plusieurs fois et ils étaient tous les deux pleins de bleu. Quand ils étaient seuls, c'est-à-dire uniquement dans leur chambre, ils ne parlaient jamais. Grand-mère récitait ses prières du soir, et pas grand-père, car il était athée et communiste. Puis, un des deux disait « Passez une bonne nuit, ma chère », et l'autre répondait « Bonne nuit, vous aussi ». Le matin, mon arrière-grand-mère voulait que sa fille prépare le café pour grand-père. Le café de cette époque, des pois chiches et de l'orge, grillés dans la cheminée au moyen d'un ustensile spécial, puis moulu. « Apportez son café à votre mari. » Et alors, grand-mère emportait la tasse violette chargée de dorures sur le plateau en verre à motifs floraux, le posait au pied du lit et s'éclipsait aussitôt comme si elle avait laissé sa gamelle à un chien enragé. Et cela non plus, elle ne se le pardonna jamais. Grand-père aidait au travail des champs et tenait bien le rythme pour quelqu'un de la ville qui avait passé son temps dans les livres, puis à travailler derrière un bureau. Il assumait aussi souvent la part de son épouse, dont les coliques néphrétiques s'intensifiaient, et il trouvait terrible qu'une femme doive travailler aussi durement au champ ou revenir de la fontaine avec une cruche pleine sur la tête. Mais par respect pour la famille qui l'hébergeait, il le disait en général à propos de la société sarde de l'intérieur, car à Cagliari c'était différent. Les gens ne prenaient pas la mouche pour des vétilles et ne voyaient pas le mal partout, impitoyablement. C'était peut-être l'air marin qui les rendait plus libres, du moins dans certains domaines, pas en politique, car les gens de Cagliari étaient des bourgeois qui n'avaient jamais envie de se battre pour rien. Pour le reste, à part grand-mère qui se contrefichait du monde, ils écoutaient Radio Londres. Au printemps 44, ils apprirent qu'en Italie du Nord, 6 millions de personnes faisaient grève, qu'à Rome, 32 Allemands avaient été tués et en représailles, 320 Italiens raflés et exécutés, que la 8e armée était prête à une nouvelle offensive, qu'aux premières heures du 6 juin, les Alliés avaient débarqué en Normandie. Un soir, avant de s'asseoir dans le fauteuil bancal près de la fenêtre sur le puits de lumière, grand-père alla prendre sa pipe dans sa valise de réfugié, sortit de sa poche un paquet de tabac tout neuf et se mit à fumer pour la première fois depuis ce mois de mai 43. Grand-mère approcha son siège et resta assise à le regarder. « Ainsi, vous fumez la pipe ? Je n'ai jamais vu personne fumer la pipe !» Et ils restèrent en silence tout ce temps-là. Quand grand-père eut fini, elle lui dit « Il ne faut plus que vous dépensiez de l'argent pour les femmes de la maison close. Cet argent, vous devez le dépenser pour racheter votre tabac et vous détendre en fumant votre pipe. Expliquez-moi ce qui se passe avec ces femmes et je ferai exactement pareil. »
Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de pof de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleure mine. Yeah. Le Florida Turnpike, demain soir j't'aime mon manie. Non, Truckers, pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y'a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que j'me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partant fumer tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y'a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. je roule tout seul dans la nuit. Je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays. Yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi pis les deux filles. Et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game. C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure, qui part au fond.
C'était donc un extrait de Mal de Pierre de Milena Agus. Et donc, Corinne, je me tourne vers toi. Comment choisissez-vous vos coups de cœur ?
Alors, lorsqu'une personne du comité aime un livre, elle le propose donc à la lecture pour la réunion d'après. Si, bon, en général, 3-4 personnes arrivent à lire le livre. Et là, le coup de cœur est annoncé ou pas.
Très bien. Et donc, Lucie, tu voulais ajouter autre chose sur ce livre ?
Eh bien oui, je vais faire un autre petit point, petit point bibliothécaire, un point adaptation, pas en BD cette fois, un point cinéma, puisque Mal de Pierre de Milena Agus a été adapté en 2016 par Nicole Garcia, avec notamment Marion Cotillard et Louis Garrel dans les rôles titres. Et c'est un film que vous pouvez retrouver à la bibliothèque,
bien
ou
sûr.
Réserver évidemment s'il n'est pas disponible. Voilà.
Et ben on va maintenant écouter un extrait d'un troisième et dernier coup de cœur du club de lecture de la bibliothèque de Vineuil. Corinne, le troisième c'est
Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, éditeur Albin Michel, hein, année de parution 2018. Donc là, on suit Violette Toussaint, qui est garde cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Bon, elle est cabossée par l'existence. Violette vit avec sa petite fille et un mari insaisissable qui un jour décide de partir sans donner d'adresse. Alors, Violette, elle aime les fleurs, elle aime son potager. Et dans sa loge va devenir un lieu d'accueil. Donc entre rire et larmes, on s'y sent bien. Les gens y passent régulièrement. Toutes ces personnes qui y passent vont révéler des choses, des petites choses, mais les choses de la vie. Et un jour, tout bascule où un homme et une femme décident de reposer ensemble dans ce cimetière. Donc Violette s'interroge beaucoup sur cette décision de ces deux personnages. Et c'est au gré des rencontres, de découvertes et de rebondissements que l'histoire va s'intensifier. Donc il faut attendre quand même quelques pages avant que ça bouge un peu. Et au fil de son enquête, on démêle un peu, peu à peu, la vie de Violette. Donc voilà, c'est un chaleureux moment de lecture. On est dans la vraie vie. On ne s'ennuie jamais dans cette histoire parce que ça bouge tout le temps, il y a toujours du monde, ça bouge, elle voit tout le temps du monde. Quand on voit Violette, elle aime les fleurs, les potagers, et après on aurait envie d'aller aussi nous faire son potager, s'occuper de nos fleurs. Elle nous donne plein d'envie, Violette.
Elle donne l'envie. Très bien. Eh bien, on va en écouter quelques lignes. C'est Catherine qui lit ?
Oui. Je m'appelle Violette Toussaint. J'ai été garde-barrière et maintenant je suis garde-cimetière. Je déguste la vie. Je la bois à petites gorgées comme du thé au jasmin mélangé à du miel. Et quand arrive le soir, que les grilles de mon cimetière sont fermées et la clé accrochée à ma porte de salle de bain, je suis au paradis. Pas le paradis de mes voisins de palier, non. Le paradis des vivants. une gorgée de Porto, un cru 1983 que me rapporte José Luis Fernandez chaque 1er septembre. Un reste de vacances versé dans un petit verre en cristal, une sorte d'été indien que je débouche vers 19h, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Deux dés à coudre de liquide rubis, le sang des vignes de Porto. Oh, je ferme les yeux et je savoure. Une seule gorgée suffit à égayer ma soirée. Deux dés à coudre parce que j'aime l'ivresse mais pas l'alcool. José Luis Fernandez fleurit la tombe de Maria Pinto, épouse Fernandez 1956-2007. Une fois par semaine, sauf au mois de juillet. Là, c'est moi qui prends le relais. D'où le Porto pour me remercier. Mon présent est un présent du ciel. C'est ce que je me dis chaque matin quand j'ouvre les yeux. J'ai été très malheureuse, anéantie même, inexistante, vidée. J'ai été comme mes voisins de palier, mais en pire. Mes fonctions vitales fonctionnaient, mais sans moi à l'intérieur. Sans le poids de mon âme qui pèse, paraît-il, que l'on soit gros ou maigre, grand ou petit, jeune ou vieux, 21 grammes. Mais comme je n'ai jamais eu le goût du malheur, j'ai décidé que ça ne durerait pas. Le malheur, il faut bien que ça s'arrête un jour. J'ai très mal commencé. Je suis née sous X, dans les Ardennes, au nord du département, dans ce coin qui fricote avec la Belgique, là où le climat est considéré comme continental dégradé. Fortes précipitations en automne et fréquentes gelées en hiver. Là où j'imagine que le canal de Jacques Brel s'est pendu. Le jour de ma naissance, je n'ai pas crié. Alors on m'a mise de côté comme un paquet de 2,670 kg. Sans timbre. Sans nom de destinataire, le temps de remplir les papiers administratifs pour me déclarer partie avant d'être arrivée. Mort-née, enfant sans vie et sans nom de famille. La sage-femme devait me trouver un prénom vite fait pour remplir les cases, elle a choisi Violette. J'imagine que je l'étais de la tête aux pieds. Quand j'ai changé de couleur, quand ma peau a viré au rose et qu'elle a dû remplir un acte de naissance, elle n'a pas changé mon prénom. On m'avait posé sur un radiateur. Ma peau s'était réchauffée, le ventre de ma mère qui ne me désirait pas avait dû me glacer. La chaleur m'a ramenée vers le jour. C'est sans doute pour cela que j'aime tellement l'été, que je ne rate jamais une occasion de me caler dans le premier rayon de soleil venu comme une fleur de tournesol. Mon nom de jeune fille s'est traîné, comme Charles. Après Violette, c'est sans doute la même sage-femme qui m'a donné mon nom de famille. Elle devait aimer Charles, comme je l'ai aimé à mon tour. Je l'ai longtemps considéré comme un cousin éloigné, une sorte d'oncle d'Amérique que je n'aurais jamais rencontré. Quand on aime un chanteur, à force de chanter ses chansons, on a comme qui dirait un lien de parenté quand même. Toussaint, c'est venu plus tard, quand je me suis mariée avec Philippe Toussaint. Avec un nom pareil, j'aurais dû me méfier. Il y a des hommes qui s'appellent Printemps et qui cognent leur femme. Un joli nom, ça n'empêche personne d'être un salaud. Ma mère ne m'a jamais manqué, sauf quand j'ai eu de la fièvre. Quand j'ai été en bonne santé, j'ai grandi, j'ai poussé très droit, comme si l'absence de parents m'avait mis un tuteur le long de la colonne vertébrale. Je me tiens droite. C'est une particularité chez moi. Je n'ai jamais penché, pas même les jours de chagrin. On me demande assez souvent si j'ai fait de la danse classique. Je réponds que non, que c'est le quotidien qui m'a disciplinée, qui m'a fait faire de la barre et des pointes chaque jour. En 1997, quand notre barrière a été automatisée, mon mari et moi avons perdu notre emploi. Nous sommes passés dans le journal. Nous représentions les dernières victimes collatérales du progrès, les employés qui activaient la dernière barrière manuelle de France. Pour illustrer l'article, le journaliste a fait une photo de nous. Philippe Toussaint a même passé un bras autour de ma taille en prenant la pose. Malgré mon sourire, Dieu que mes yeux ont l'air tristes sur cette photo. Le jour de la parution de l'article, Philippe Toussaint est rentré de la feu ANPE, la mort dans l'âme. Il venait de réaliser qu'il allait devoir travailler. Il avait pris l'habitude que je fasse tout à sa place. Avec lui, niveau fainéantise, j'avais gagné le gros lot, les bons numéros et le jackpot qui va avec. Pour lui remonter le moral, je lui ai tendu un papier. Gardien de cimetière, un métier d'avenir. Il m'a regardé comme si j'avais perdu la raison. En 97, il me regardait chaque jour comme si j'avais perdu la raison. Est-ce qu'un homme qui ne l'aime plus regarde la femme qu'il a aimée comme si elle avait perdu la raison ? Je lui expliquais que j'étais tombée sur cette annonce par hasard, que la mairie de Brancion en Chalon recherchait un couple de gardiens pour s'occuper du cimetière et que les morts, ils avaient des horaires fixes et qui feraient moins de bruit que les trains. Que j'avais parlé au maire, qu'il était prêt à nous embaucher tout de suite. Mon mari ne m'a pas cru. Il m'a dit que le hasard, il n'y croyait pas. Qu'il préférerait plutôt crever que d'aller là-bas et faire ce métier de charognard. Il a allumé la télé, a joué à Mario 64. Le but du jeu, c'était d'attraper toutes les étoiles de chaque monde. Moi, il n'y a qu'une étoile que je voulais attraper, la bonne. C'est ce que j'ai pensé quand j'ai vu Mario courir partout pour sauver la princesse Peach enlevée par Bowser. Alors j'ai insisté. Je lui ai dit qu'en devenant gardien de cimetière, on aurait un salaire chacun et bien meilleur qu'à la barrière, que les morts, ça rapportait plus que les trains, qu'on aurait un très joli logement de fonction et pas de charges, que ça nous changerait de la maison que nous habitions depuis des années, une bicoque qui prenait l'eau comme un vieux rafio l'hiver et était aussi chaude que le pôle Nord l'été, que ce serait un nouveau départ et qu'on en avait besoin, qu'on mettrait de jolis rideaux aux fenêtres pour ne rien voir des voisins, des croix, des veuves et tout et tout. Que ces rideaux, ce serait la frontière entre notre vie et la tristesse des autres. J'aurais pu lui dire la vérité, lui dire que ces rideaux, ce serait la frontière entre ma tristesse et celle des autres. Mais surtout pas. Ne rien dire. Faire croire, faire semblant pour qu'il plie. Pour finir de le convaincre, je lui ai promis qu'il n'aurait rien à faire. Que trois fossoyeurs s'occupaient déjà de l'entretien des fosses et de l'aménagement de ce cimetière, que ce travail, ce n'était qu'une histoire d'ouverture et de fermeture de grilles, de présence, avec des horaires pas fastidieux, des vacances et des week-ends aussi longs que le viaduc de la Valserine, et que moi, je ferais le reste, tout le reste. Super Mario a arrêté de courir. La princesse a dégringolé. Avant de se coucher, Philippe Toussaint a relu l'annonce. Gardien de cimetière, un métier d'avenir. Notre barrière se trouvait à Malgrange sur Nancy. À cette période de ma vie, je ne vivais pas. À cette période de ma mort serait plus juste. Je me levais, m'habillais, travaillais, faisais les courses, dormais avec un somnifère, voire deux, voire plus. Et je regardais mon mari me regarder comme si j'avais perdu la raison. Mes horaires étaient monstrueusement fastidieux. Je baissais et levais la barrière près de 15 fois par jour en semaine. Le premier train passait à 4h50 et le dernier à 23h04. J'avais les automatismes de la sonnerie de la barrière dans la tête. Je l'entendais avant même qu'elle retentisse. Cette cadence infernale, on aurait dû la partager, la faire par roulement. Mais la seule chose que Philippe Toussaint faisait rouler, c'était sa moto et le corps de ses maîtresses. Oh, que les usagers que j'avais vus passer m'ont fait rêver. Pourtant, ce n'étaient que des petits trains régionaux qui reliaient Nancy à Épinal et qui s'arrêtaient une dizaine de fois par trajet dans des bourgades paumées pour rendre service aux autochtones. Pourtant, j'enviais ces hommes et ces femmes. J'imaginais qu'ils allaient à des rendez-vous que j'aurais voulu avoir comme ces voyageurs que je voyais filer. Nous avons mis le cap vers la Bourgogne 3 semaines après la parution de l'article dans le journal. Nous sommes passés du gris au vert, du bitume au pré, de l'odeur du goudron de la voie ferrée à celle de la campagne. Nous sommes arrivés au cimetière de Brancion en Chalon le 15 août 1997. La France était en vacances. Tous les habitants avaient déserté. Les oiseaux qui volent de tombe en tombe ne volaient plus. Les chats qui s'étirent entre les pots de fleurs avaient disparu. Il faisait même trop chaud pour les fourmis et les lézards. Les marbres étaient brûlants. Les fossoyeurs étaient en congé, les nouveaux morts aussi. Je déambulais seul au milieu des allées, lisant le nom des gens que je ne connaîtrais jamais. Pourtant, je m'y suis tout de suite sentie bien. À ma place.
J'ai fait l'amour avec un con, un homme, un con. J'ai fait l'amour avec un con, un con d'homme. Pourquoi j'ai dit oui, non, non, non? Pourquoi j'ai pas dit non? Oui, oui, oui. J'ai fait l'amour avec un. Parfois on se sent si seul. Dans le fond, tout le monde est seul. C'est pas con. J'ai fait l'amour sans un frisson. Incontestable. J'ai fait l'amour avec un con. Incontable. Pourquoi j'ai pas discuté? C'est pas un conte de fées. Pourquoi j'ai bu tous ces verres? Le contact n'était pas bon. Pourquoi j'ai pas mis mes verres? Le contact c'est trop con. Le compte en addition. Et puis les moutons. Le temps de me dire à quoi bon. Et mon compte était bon. Pourquoi j'ai pas poussé? Cet inconnu, comment tu t'appelles déjà? Je sais plus, je sais pas. Comment tu t'appelles déjà? Je sais plus, je sais pas. J'étais bourrée inconséquente, j'étais condamnée inconsciente. J'ai fait l'amour à contre-cœur. Il m'a même pas embrassé. J'ai fait l'amour en regardant l'heure. Je suis con. J'ai fait l'amour avec un. Parfois on se sent si seul. Mais dans le fond, tout le monde est seul. C'est pas con. Comment tu t'appelles déjà? Je sais plus, je sais pas. Ah, si j'étais plus concentrée, tout serait moins. Comment tu t'appelles déjà? J'ai plus, j'ai pas. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Surtout me rappelle pas. Me rappelle pas.
Merci pour ce nouvel extrait. Notre émission va toucher à sa fin. Je voulais remercier la bibliothèque de Vineuil pour son accueil. Merci à Lucie. Merci au comité de lecture représenté par Corinne.
Avec plaisir aussi.
D'ailleurs, je crois que nous devons revenir un jour à Vineuil.
Eh bien oui, vous reviendrez a priori, hein, si vous êtes tous d'accord. Donc une fois par an,
ce
à
sera
chaque fois pour une émission.
Avec
en direct,
plaisir.
En public.
Avec plaisir. Plaisir. Surtout si on a autant de monde pour venir nous voir. Donc merci pour votre accueil. Corinne, est-ce que tu peux nous rappeler les trois coups de cœur du comité Délivrez-nous de la bibliothèque?
Alors, Nymphéa Noir de Michel Bussy, publié aux éditions Presse de la Cité en 2011. Mal de Pierre de Milena Agus, publié en 2006 aux éditions Liana Lévy. Et Changer l'eau des fleurs, publié aux éditions Albin Michel en 2018.
Eh bien, merci à tout le monde. Merci au public d'être venu. Ça fait plaisir d'avoir du monde. Et puis, on espère vous avoir donné envie de découvrir des livres que peut-être vous ne connaissiez pas. Voilà, au revoir. Auditeurs, auditrices, je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Studio Zef, studiozef.fr, ou à la radio, tout simplement, sur la bande FM, sur 91.10. Cet émission était enregistré mensuellement et rediffusé tous les vendredis à 14h. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.